alto de un vacío casero oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, j'ai essayé de combattre au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la vie de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci d'avoir choisi Radio Kafi qui vous propose ces derniers numéros des paroles aux auditeurs de ce mois de janvier. Le président provincial de l'Association congolaise pour l'accès à la justice plaide auprès des autorités de la nouvelle province du Kasaï pour la réhabilitation du bâtiment du palais de la justice menacé des disparitions. Cette situation relance les débats sur l'état des lieux des différentes infrastructures des bases existantes dans d'autres nouvelles provinces. Le gouvernement congolais propose dans ses dernières mesures de relancer des travaux d'infrastructures et équipements, notamment ceux de l'électrification et des dessertes en eau potable dans les chefs-lieux des nouvelles provinces. Certains observateurs estiment que le gouvernement devra aussi étendre ses travaux à d'autres infrastructures de base. Qu'en pensez-vous? 081-890-6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans ce magazine. Mise en onde par André Mongou, Julie Feza et au standard. Jérôme Gembo est à la réalisation et coordination. Et Pierrot et la Méji vous le présente sous la supervision de Martin Sebujango. Fidèles auditeurs, bienvenue à vous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiokafi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Méji.
La problématique de l'infrastructure de base à travers les nouvelles provinces au centre de notre échange. Notons que la loi de programmation de mise en place des nouvelles provinces dans son article 11 dit ceci. Dès l'installation des nouvelles provinces, le gouvernement de la République initie en concertation avec les autorités provinciales un programme d'équipement, de réhabilitation et de construction des infrastructures nécessaires au fonctionnement des nouvelles provinces. Il prévoit sur une période de 5 ans un budget pluriannuel d'investissement destiné au financement des travaux prioritaires de nouvelles provinces. Il procède annuellement à une évaluation des travaux réalisés dans le cadre du programme visé à l'alinéa premier du présent article. Le rapport d'évaluation de ces travaux est présenté à chaque session budgétaire à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et nous avons ces débats est parti de la nouvelle province du Kasaï où le président provincial de l'Association congolaise pour l'accès à la justice a effectué une mission. Il s'est rendu compte que le palais de justice est dans un état délabrement très avancé. Une partie a été déjà engloutie par le ravin. Et alors, ceci pose la question de faire le point sur les infrastructures de base dans les nouvelles provinces et comment arriver à les réhabiliter. Maître Adrien, il s'agit bien sûr de vous. Vous êtes avec nous du Kamenga. C'est vous qui avez effectué cette mission dans la province du Kessai. Pourriez-vous nous brosser un peu le tableau de ce palais de justice de Lébo?
Oui, merci de la parole et surtout de l'honneur que vous nous faites aujourd'hui. Il est vrai que nous avions effectué un déplacement vers Lebo, comme dans notre habitude, pour circuler dans les deux nouvelles provinces, donc la province du Kasaï et la province du Kasaï central. Cela que lorsque nous sommes arrivés à Lebo, on a failli pleurer. On a vu que le bâtiment abritant et le parquet de grande instance près le tribunal de Lebo et le palais de justice de Lebo et les différents bureaux de magistrats, une partie était bien engloutie par le ravin depuis 2012. Nous nous sommes rendus compte qu'une partie de cet immeuble restante représentait un danger imminent pour les différentes populations qui circulent et qui viennent rendre visite aux magistrats et ceux-là qui viennent pour leurs différentes causes. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu aussi compte que même le magistrat ne travaillait pas vraiment tranquillement, il travaillait sous stress, ils avaient toujours la peur dans leur ventre parce que à chaque mouvement, et tout le monde croyait que c'était le reste de l'immeuble qui voulait tomber. C'est comme ça que nous sommes dit, il faut vraiment rappeler. Donc, et les autorités provinciales et les autorités nationales, parce que c'était depuis 2012, comme nous l'avons dit, et toutes les autorités avaient promis donc de venir en aide donc de ce coin-là pour essayer un peu de réhabiliter, pourquoi pas déplacer même cet immeuble vers un autre endroit.
Mais si on fait un constat général à Lebo, Maître Adrien, y a-t-il pas moyen, quand vous regardez les bâtiments publics aujourd'hui à Lebo, y a-t-il des bâtiments qui peuvent quand même servir de palais de justice? Quand on décrit la situation, une partie de l'immeuble qui s'est engloutie par les ravins et le reste qui est menacé de s'écrouler et que les gens continuent à y travailler, faudrait-il quand même à un certain moment qu'on pense à pouvoir déplacer momentanément? Quel est l'état général aujourd'hui des infrastructures à Lebo, Maître Adrien?
Oui, merci Pierrot pour la question de relance. Je pense que l'état général des infrastructures laisse vraiment à désirer. Donc, c'est presque tous les bâtiments, tous les immeubles appartenant à l'État. Je ne vois pas un immeuble en bon état. Donc, pour répondre maintenant à votre question, chercher un autre immeuble de l'État, ça ne sera pas possible parce que tous ces immeubles-là présentent toujours une certaine vétusté et puis indélabrement sans précédent. C'est comme ça que la solution était trouvée par les autorités elles-mêmes à l'époque, lorsque cette partie-là venait d'être engloutie. Les autorités avaient estimé que chercher un autre bâtiment était compliqué parce que il y avait des fentes et des fissures partout, donc sur tous les immeubles de l'État. La solution était de chercher tout simplement à chercher un autre endroit pour reconstruire un autre immeuble qui devrait abriter les deux juridictions, donc l'office du parquet et aussi le tribunal de grande instance. Bon, nous, à notre niveau, on avait estimé, pendant que l'ancienne province du Kasaï occidental des membres aujourd'hui bénéficiait encore des programmes de Parge, on avait soumis ce cas-là auprès de ses partenaires pour qu'il puisse aussi intervenir comme il l'a fait, comme il est en train de le faire à Kananga et aussi à Ilebo, si on ne pouvait pas intervenir de ce côté-là. Et nos amis nous ont laissé entendre que ils avaient ce projet-là, voire même à Chikapa, mais pour le cas de l'Ebo, c'était un cas auquel le gouvernement congolais s'était déjà pointé pour prendre ça en charge, donc il ne pouvait pas se disputer la charge. C'est ce qu'a été la réponse maintenant. Notre étonnement est de voir que depuis 2012, personne ne s'occupe et personne ne veut encore en parler. Et c'est là que nous sommes dit qu'il ne faut pas que nos autorités attendent le jour où le reste du bâtiment pourra tomber sur la population pour qu'on puisse profiter de l'occasion et organiser un deuil national.
Oui, et la dernière question, Maître Adrien, pensez-vous aujourd'hui que c'est possible, quand vous regardez la situation des infrastructures dans les nouvelles provinces et les moyens financiers qui peuvent être disponibles, est-ce que c'est possible aujourd'hui pour les autorités de la nouvelle province du Kasaï de pouvoir financer urgemment les travaux de ces palais de justice? Est-ce que c'est possible aujourd'hui, selon vous qui faites les plaidoyers autour de cette question?
Oui, Pierrot, je pense qu'avec un minimum de volonté politique, vraiment c'est possible parce que ça ne pourra pas coûter les yeux de la tête. Hein. S'il y a la volonté, les nouvelles autorités de la nouvelle province peuvent vraiment bien faire pour intervenir. Parce que n'oubliez pas, Pierrot, j'aime toujours le dire que lorsque vous prenez le traitement des trois pouvoirs traditionnels, vous allez vous rendre compte que le pouvoir négligé, c'est le pouvoir judiciaire. Et avec tout ça, c'est l'unique pouvoir qui a derrière lui beaucoup de pression. Et tout le monde veut que le magistrat donne le meilleur d'eux-mêmes. Mais lorsque le magistrat manque même le minimum, hein, le minimum, c'est-à-dire l'endroit où il faut travailler tranquillement, je me demande par quelle baguette magique que ces magistrats-là pourront donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est comme ça que moi je pense, avec la volonté politique et une bonne volonté, je pense que ça ira pour les nouvelles autorités de la province, parce que c'est vraiment quand même un véritable fardeau sur leurs épaules. Il faut vraiment commencer par là pour ne pas compromettre leur avenir.
Merci beaucoup, Maître Adrien, pour ce témoignage. Vous avez séjourné à Le Beau, dans la nouvelle province du Kessai, où l'état des lieux, hein, l'état du bâtiment abritant les services judiciaires pose problème. Une partie englouée dans les ravins. Faudrait-il aujourd'hui investir des moyens pour permettre aux magistrats et aux autres de travailler sans difficulté? Merci beaucoup. Jirès, vous êtes à Bandundu, précisément à Bandunduville, je crois bien, Jirès.
Oui, monsieur le journaliste, merci beaucoup pour la parole. Nous commencerons notre intervention en félicitant le gouvernement pour sa décision de pouvoir réhabiliter et construire des infrastructures, donc en termes de bâtiments, pour les différents services de justice. Alors, nous pensons tous que nous sommes dans un pays où tout est presque prioritaire. Mais dans cette gamme de priorités, il existe ce qu'on appelle des priorités urgentes. Ce qui nous amène à poser cette question à l'invité, entre et améliorer le paiement des juges et construire des infrastructures judiciaires.
Je dirais que nous ne faisons pas les débats. Le gouvernement n'a pas dit qu'il va commencer à construire les infrastructures judiciaires. Nous sommes partis de la situation de l'état délabrement du palais de justice de Le Beau pour faire le point dans les nouvelles provinces sur l'état des lieux des infrastructures et comment on peut arriver à les améliorer. La situation, par exemple, là où vous êtes à Bandunduville, que ce soit les bureaux administratifs, que ce soit le parquet, que ce soit les tribunaux d'épée, que ce soit d'autres infrastructures de base, dans quel état ils sont aujourd'hui et s'il faudrait par rapport à la priorité, là où vous êtes, dans la nouvelle province de Kouilou, qu'est-ce que le gouvernement devait faire, Jirès?
Ok. Merci, monsieur le journaliste, pour la parole une fois de plus. Moi, je pense qu'il serait mieux de pouvoir commencer par faire un état de vue de la situation sociale du magistrat. Alors, comme l'a dit l'invité, le magistrat fait partie des fonctionnaires le mal payé. Et s'il fallait proposer, je proposerais à ce que l'on commence par améliorer la situation sociale du magistrat en termes de son paiement. Alors, si le paiement du magistrat n'est pas amélioré, moi, je pense que nous continuerons à créer...
Merci beaucoup, Jirès. Apparemment, Jirès, vous n'avez pas compris la question de la relance. La question, c'est pas aujourd'hui de la situation de la justice, mais nous parlons des infrastructures dans les nouvelles provinces. Le gouvernement a annoncé dans les 28 dernières mesures qui ont été rendues publiques qu'il pourra, bien sûr, lancer le programme des constructions, des relances, des travaux d'infrastructures et équipements, notamment ceux de l'électrification et des dessertes en eau potable dans les chefs-lieux de nouvelles provinces. C'est alors que certains observateurs estiment que le gouvernement devra aussi étendre ses travaux à d'autres infrastructures de base. C'est comme nous avons évoqué le cas du parquet dans la province, dans la nouvelle province du Kessai, précisément à Le Beau. Il y en a qui estiment qu'il faudrait construire les bureaux qui doivent abriter les différents services de l'État dans les nouvelles provinces. Alors pour vous, quelle doit être la priorité et qu'est-ce que vous pensez de toutes ces propositions? On retourne à Kinshasa. Maître Omar, merci de nous avoir rejoint. Vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour Pierrot et l'ami, j'ai bon début de semaine à vous tous. J'ai à Longuembo, vous et Madame Julien, c'est quelque chose d'ici.
Merci beaucoup, on vous écoute.
Merci beaucoup Pierrot, je félicite le gouvernement pour cette initiative, car un des grands architectes disait, Jean Nouvel, on reconnaît un état sérieux par l'état de ses infrastructures. Ce débat sur ce qui se passe à Kananga relance, comme vous l'avez dit, un débat sur l'état de lieu des infrastructures à RDC. D'emblée, je voudrais quand même remercier le gouvernement pour des efforts tant soit peu fournis. Si on peut aujourd'hui faire un tour au niveau des provinces, on voit quand même quelques améliorations. Si j'ai été récemment à Bandundu Kwango, il y a 10 ans, parce que le parquet était vraiment délabré, mais au niveau de la nouvelle province, le parquet de Kwango ainsi que son tribunal sont vraiment réhabilités. Mais nous déplorons, Pierrot, quelques failles au niveau des infrastructures parce qu'on ne peut pas projeter un plan sans faire un bilan. À Kim, par exemple, nous constatons des routes qui sont réhabilitées, mais après une année ou 2 ans, ce sont les mêmes choses qui reviennent. On a des trous, on se demande est-ce qu'on les fait avec expertise ou ce sont des clientélismes des marchés publics. Nous remarquons également une certaine légèreté lorsqu'on fait des infrastructures. Je vous donne le cas du stade des marchés qui a coûté beaucoup de millions pour le construire. Vous êtes à Kinshasa, allez faire un tour au stade des marchés, vous allez vous rendre compte que presque avant stade des marchés égale après stade des marchés. Pour en venir alors à l'idée du gouvernement, j'en félicite, mais moi je pense, avant de relancer cette construction, il faudra commencer par faire un état des lieux sérieux. Ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'est pas fait et qu'est-ce qui reste à faire. Et la priorité doit être au niveau des nouvelles provinces. Je l'avais dit, si vous regardez nos anciennes émissions, que la décentralisation est processuelle, est coûteuse, elle est technique. des études doivent être menées au préalable. Qu'est-ce qu'il faut, par exemple, pour la province de Tel? Parce qu'on ne peut pas projeter un plan sans interroger le passé, sinon on ne saura pas bien diriger le présent. Au niveau des provinces, par exemple, moi je pense qu'il faut un minimum de volonté politique. On a construit des meubles intelligents, l'argent était sorti. Si on peut aussi le faire pour les provinces, ça sera certainement une bonne chose. Là, j'implore alors l'accord de moyens par le budget qui doit être fait au niveau des provinces, au niveau du gouvernement central. Et je demande aussi la capacité d'organiser les choses au niveau des animateurs des provinces. Tenez ici, vous interrogez l'histoire de la neige. Les colonisateurs sont venus dans ce pays avec les tôles et les clous. Mais ils ont pu construire. Où avaient-ils trouvé l'argent pour construire? Donc, pour revenir à votre question, je voudrais seulement dire les plans de relancer la construction est un bon plan, mais il faudra commencer par faire un état des lieux sur ce qui est fait, ce qui doit être fait, ce qui n'est pas encore fait, et aussi accorder une priorité aux nouvelles provinces, car le développement local commence au niveau des provinces. Et ça demande aussi un minimum de volonté politique de la part du gouvernement. Nous avons un état décentralisé, fortement unitaire. Il faudra que ceux qui dirigent au niveau central puissent avoir un minimum de volonté pour accorder des moyens aux provinces. Donc, on peut bien faire des plans, on peut bien décréter des relances. S'il n'y a pas un minimum de volonté politique, s'il n'y a pas assez d'expertise pour ceux qui font ces travaux, on va toujours revenir aux mêmes choses. Voilà ma petite préoccupation, Pierrot. Je vous remercie.
Merci, Maître Omar. Vous avez insisté sur les nouvelles provinces. Effectivement, c'est ça même la clé de notre échange dans ces magazines. Comme je l'ai dit, la loi des programmations des mises en place des nouvelles provinces, en son article 11, je venais de lire cela. Dès l'installation des nouvelles provinces, le gouvernement de la République initie, en concertation avec les autorités provinciales, un programme d'équipement, de réhabilitation et de construction des infrastructures nécessaires au fonctionnement de nouvelles provinces. On s'en tient à la loi, comme on a déjà mis en place les nouvelles provinces. Je crois que le gouvernement devait déjà discuter avec les commissaires spéciaux, parce que ce sont eux qui dirigent les nouvelles provinces, pour dégager ce programme urgent. Et d'ailleurs, dans ce programme, on prévoit une période de 5 ans avec un budget pluriannuel d'investissement destiné au financement des travaux prioritaires des nouvelles provinces. Je crois que tout cela devait être discuté entre le gouvernement central et les commissaires spéciaux. Mais vous pensez qu'avec un problème de volonté politique, on peut y arriver et mettre plus l'accent sur les priorités pour chaque province. Mais bravo pour les Congo où les parquets et les tunnels de paix ont été déjà réhabilités. Merci beaucoup, Omar. Maître Sonville, vous êtes à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, Monsieur Pierrot. Bonjour aussi à tous les millions d'auditeurs de la radio Quartier.
Je pense que...
Monsieur Pierrot.
Oui, mais Maître Sommier, je crois que la province du Haut-Katanga a déjà bénéficié, n'est-ce pas, d'infrastructures, parce que là, on voit, c'est l'ancienne province du Katanga des Mambré, où il y a les chauffiliers et Lubumbashi, et Lubumbashi déjà bénéficie de ça. Mais est-ce qu'il y a des problèmes qui peuvent aussi être corrélés par rapport à d'autres nouvelles provinces de l'ancienne Katanga?
Pas seulement, Monsieur Pierrot, avec les nouvelles provinces. Je sais que avec l'ex-gouverneur du Katanga, il y a eu quand même les abris qui ont été habilités, qui ont été aménagés, des bâtiments qui ont été aménagés, entre autres les lycées qui venaient, le bâtiment de Grana où loge la 2R4. Il y a eu quand même beaucoup de travaux qui ont été faits dans ce sens-là. Mais néanmoins, le problème des facilités se pose avec acuité. Puisque aujourd'hui, comme notre confrère Adrien vient de parler du palais de justice au niveau de Mbujimayi, au niveau de Lubumbashi, il se pose un problème, parce qu'il faut voir les conditions dans lesquelles travaillent les magistrats. Et puis, vous savez, M. Piro, l'instruction a toujours été dite secrète, mais lorsque vous entrez au palais de justice de Lubumbashi, dans un même local, il y a au moins 6 magistrats. C'est-à-dire qu'il n'y a pas question du secret de l'instruction. C'est-à-dire que tout est entendu par n'importe qui. Alors, moi, j'explique que le gouvernement a posé ce problème. Et il est devant la loi que le gouvernement puisse entreprendre en érigeant d'autres infrastructures. Et par rapport aussi aux infrastructures qui ont été réaménagées, il y a d'autres qui connaissent quand même une détérioration le décret d'amortissement est trop avancé. Et ça nécessite une destruction pour reconstruire. Mais nous avons de nouveaux quartiers, de nouvelles concessions, là où le gouvernement ne songe même pas à prêter un lieu là, un endroit où peut être érigé le palais de justice et le tribunal de commerce, tout ça. Mais néanmoins, au niveau du Katanga, nous avons un tribunal de commerce là où on loge, là où loge tous les services, mais qui dans la division de justice est en train de louer. Mais aussi, si nous allons au niveau de la commune Kenya, il faut voir les conditions dans lesquelles le travail des magistrats, le secrétariat est sur la véranda. C'est comme si on était dans un village. Et tout cela doit être amélioré pour s'attendre à une bonne justice. Mais la manière dont travaillent les magistrats, il faut avoir un peu de pitié. Vous verrez un magistrat qui s'habille bien, mais lorsque vous rentrez dans son cabinet, c'est déplorable.
C'est le domaine dans lequel vous travaillez.
Nous allons mettre du côté de l'inspection judiciaire. En face du palais de justice de l'Embassie, il y a l'inspection judiciaire. Là, n'en parlons même pas. Avec la réforme des policiers qu'il y a eu, on les a mélangés, les inspecteurs judiciaires et les policiers. Mais il faut voir comment, dans quelles conditions travaillent ces gens-là. En tout cas, M. Pierrot, même ici à l'Embassie, même partout ailleurs, le problème de Francis se pose avec acuité. Si nous nous rendons, on mettra au niveau du là-bas. Mais il faut voir le commissariat provincial est abrite dans un hôtel. Tout ça, il faut construire de nouveaux bâtiments et chercher à ce que lorsqu'on offre de nouvelles concessions, et que l'État congolais puisse songer à ça, puisque lorsqu'on offre de nouvelles concessions, on ne songe même pas à prévoir, à prévenir un lieu là où sera érigé un marché, un lieu là où sera érigé une école officielle. Ça se pose avec beaucoup d'acuité. Pour les préposés de ce livre et ne voient que l'argent. Mais maintenant, à l'hypothèse où on cherchait à réhabiliter toutes les déportations, il faut dépasser encore complètement cette enveloppe. Puisque nous connaissons, il y a l'opération retour. Par exemple, aujourd'hui, M. Pierrot, à titre illustratif, on est en train de réaménager un bâtiment de la Gécamine ici. Si c'est 5 ou 6 salles comme ça, le taux revient à 11 millions de dollars. Vous voyez que ça, ce sont les choses qui sont en train de dilapider l'argent. Vous rappelez l'argent du contribuable congolais.
Alors là, vous avez posé un problème. Oui, Maître Sonville, vous avez raison, Maître Omar, qui disait tout à l'heure, quand il faudrait que le gouvernement lance les travaux à travers le pays, faudrait-il veiller aussi à la qualité des travaux. Et là, vous posez le problème la qualité, la surfacturation, avec tout ce qu'il y a comme opération autour de chiffres qui sont gonflés quand on voudrait réhabiliter. Mais vous avez évoqué la situation dans laquelle travaille le magistrat. Alors, monsieur, vous souhaitez qu'on puisse agrandir, sinon construire d'autres bâtiments pour permettre à ceux qui administrent la justice puissent travailler comme il faut. Et à côté de tout cela, et vous avez évoqué la situation de la nouvelle province de Malaba, où le commissariat, en ce moment, selon votre intervention, utilise encore un hôtel comme bureau et tout ça. Il faudrait que le gouvernement songe à mettre en place un programme de construction et des infrastructures plus rapidement. Merci beaucoup, Maître Sonville. Très original, vous êtes ici à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, monsieur Pierrot, bonjour, Radio Capi.
C'est
tellement déplorable, monsieur Pierrot et la MEIJ. Je sais quand même saluer l'observation ou les études faites par Maître Adrien de Kananga sur la situation du tribunal de Louébotia en état de délabrement. Monsieur Pierrot et la MEIJ, je ne sais pas pourquoi nous pouvons parler d'un état digne dans ce pays. Mais je me demande pourquoi l'État congolais est parti trop vite en devant pour créer beaucoup de nouvelles provinces dans ce pays. Parce que le fait des prérogatives qui lui sont dévolues, il en est incompétent pour résoudre certains problèmes, mais il est parti trop vite en devant pour créer de nouvelles provinces où il aura des difficultés de mettre ou de satisfaire toutes ces nouvelles provinces-là. Je me demande d'abord, parce que récemment j'étais à Kananga, lorsque j'étais parti assister aux obsèques de mon père Mathieu, qui intervenait beaucoup dans vos émissions Parole aux auditeurs.
C'est vraiment bien.
J'ai trouvé les parquets des grandes instances de Kananga déménagés. Au moment actuel, ils sont de louer chez un privé, là où les officiers du ministère public sont considérés comme les avocats du peuple, là où ils sont en train d'opérer. Je me demande, est-ce que l'État congolais sait seulement s'occuper du fonctionnement normal des officiers du ministère public? Est-ce qu'on reconnaît le fonctionnement de l'appareil judiciaire dans cet État? on est dans un état absent de ces rôles.
Alors, pour votre raison, Junior, vous estimez que l'État, le gouvernement est allé vite en besogne en créant, en mettant en place les nouvelles provinces. Il faudrait d'abord avoir un programme d'infrastructure et à partir de ces programmes d'infrastructure, on pouvait voir comment améliorer. Vous avez aussi assisté sur les parquets de Kananga. Je crois bien mettre que Adrien nous a parlé d'un programme de réhabilitation tout à l'heure là, mais vous estimez que l'État devrait prendre cette question comme une urgence et surtout en ce qui concerne les nouvelles provinces. Merci beaucoup, Trésor. Nous avons Philippe, ingénieur Philippe, qui nous appelle de Kikwit, c'est dans la province de Kouilou. Ingénieur Philippe, vous êtes avec nous? Vous êtes à Kouilou? Voilà, dommage. On a perdu ingénieur Philippe qui nous appelait de Kouilou, dans, bien sûr, de Kikwit, dans la nouvelle province de Kouilou. Stéphane Ndeboigny nous a écrit. L'État Kananga au Kasaï central. Pourquoi l'État n'avait pas d'abord trouvé le temps de pouvoir faire une étude des lieux à travers les nouvelles provinces pour s'assurer de vrais problèmes? Quels sont les infrastructures qui manquent et surtout en termes de bâtiments publics avant de pouvoir mettre en place ces provinces? Mais l'État aussi peut recourir à les immeubles de l'État qui sont occupés illégalement à travers aussi ces nouvelles provinces Yana. Et cela peut être récupéré et être utilisé pour les services publics. Crise Cissé Mangwangu, le gouvernement, avant de procéder au démembrement des provinces, devrait au préalable traiter la question d'infrastructures de base pour l'installation des institutions provinciales afin de permettre une meilleure, de meilleures conditions de travail. Il y a aussi Benoît Chamba qui dit que si, avant d'habiter sa parcelle, le propriétaire doit d'abord construire sa maison. C'est ce que le gouvernement devait faire au préalable, construire ou réhabiliter les infrastructures des bases, que ce soit la question de l'eau ou de l'électricité, parce qu'il y a des gens qui vivaient déjà dans ces nouvelles provinces et pensaient maintenant à aller au découpage de ces provinces. John Ojane de Butembo, il dit aussi l'état des lieux des différentes infrastructures des bases dans les nouvelles provinces est vraiment déplorable. Aussi longtemps qu'il n'y a pas encore l'effectivité des 40% de retenir la ressource et des recettes pour les provinces, les nouvelles provinces resteront toujours dans l'état où on les a trouvées. L'argent des fonds sociaux de la République est accordé rien que pour les provinces mères ou des provinces privilégiées. Peut-être, pour être concret, prenons l'exemple des deux nouvelles provinces de Haut et Bas ULE. Pas de routes, pas de bâtiments, pas d'électricité, pas d'eau potable, voire même l'inexistence de correspondants des radios Capi dans ces deux nouvelles provinces. Cette question sera suivie, bien sûr, à la direction des radios Capi, qui pourra peut-être voir dans quelle mesure on peut adapter sa correspondance en fonction de ces découpages. Merci beaucoup, John Ojane. Vous nous avez écrit des Butembo dans la province du Nord Kivu. Aubin, vous êtes en Bandaka, vous gardez la ligne 081-890-6315. C'est le numéro d'appel pour intervenir dans ces magazines.
Ils parlent de leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et des changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune racontée par ces acteurs. Tous les dimanches, 12h15, hors de Kinshasa, en compagnie de Kelly Écouté sur Radio Capi.
Robert, vous êtes en Bandaka. Bonjour, Robert.
Bonjour, Marcel Ngombo. Bonjour aussi à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Oui, Robert, c'est Parole aux auditeurs avec Pierrot et la Meiji. Alors, le Bandaka.
Ah oui, Pierrot, merci.
Bandaka quand même a pu déjà bénéficier des infrastructures qui ont existé du temps de la province de l'Équateur avant qu'elle soit démembrée. Je crois peut-être aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de problèmes qui se posent par rapport aux infrastructures dans cette nouvelle province, Aubin.
Merci, monsieur le journaliste. Mais bien sûr que la province a déjà bénéficié depuis longtemps. Aujourd'hui, il y a un cas qui, je peux signaler à tous les auditeurs et à toutes les autorités du gouvernement central. Donc, il y a un problème ici dans la province de l'Équateur de Membré, précisément ici en Bandaka, il y a le problème de la vente des terrains. Donc, les services du tutelle, donc les services qui s'occupent du la vente du terrain, donc ils ne tiennent même pas compte. Ils sont en train de vendre à n'importe quel endroit, dans n'importe quel où. Donc l'espace qui se part de maisons comme les Flamands ont bien précisé, donc ont bien visé que donc entre les deux maisons, il faut qu'il y ait un espace de 50 ou 60 mètres. Donc cet espace aujourd'hui sont vendus, ces espaces sont vendus par les services là. Je peux aussi ajouter qu'il y a même le problème de la division des affaires, soit sociales ou humanitaires, qui se trouvait sur l'avenue, pour ceux qui connaissent bien la ville de Mbandaka, sur l'avenue ma maternité. Il y avait une division là qui a été vendue, aujourd'hui, ça devient des parcelles d'autrui, donc. Je sais pas, avec cette idée, c'est bien, c'est pas du tout mauvais. Mais le problème, avant d'abord construire ou réhabiliter, les espaces là vendus, je sais pas, est-ce que ça sera vraiment résolu? Est-ce que l'État va vraiment
prévoir tout à l'heure pour récupérer les espaces vendus? Ça s'est déjà posé dans beaucoup de provinces. On voit aujourd'hui des lotissements, les espaces verts entre deux bâtiments publics dans beaucoup de nos villes. Il y a cette question des lotissements, de ces espaces verts entre deux bâtiments, le problème des spoliations, alors qu'on a augmenté les entités territoriales, on a augmenté des provinces. D'un côté, il y a des bâtiments qui ont été spoliés. Vous estimez que l'État pouvait engager des procédures pour la récupération des bâtiments spoliés et même des espaces entre des bâtiments publics qui ont été lotis pour les comptes des privés et pouvoir récupérer cela. Ça peut résoudre la question des infrastructures à travers toutes ces provinces. Merci beaucoup. Nous avons, Dieu merci, Oudongo qui nous a écrit en disant ceci, certainement, ce qui importe beaucoup plus, au lieu de perdre encore l'argent pour construire des nouveaux bâtiments, dans la plupart des nouvelles provinces, il y a quand même quelques bâtiments qui existent. Autant mieux le réhabiliter, les améliorer, mais nous sommes d'accord si les gouvernements trouvent nécessaire de consacrer les efforts pour la desserte en électricité et l'eau potable dans les nouvelles provinces. Merci beaucoup, notre ami Dieudonné qui nous a écrit de Bouya. Nous avons Monsieur Saboni qui nous a écrit, qui nous appelle de Kisangani. C'est dans la province de la Tchopo, je crois bien. Saboni, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Maître Saboni, on vous écoute, maître.
Oui, je voulais seulement parler ce sont des sujets pour ma capitale. Parce que c'est important de bénéficier d'autres infrastructures, tandis que dans les nouvelles, dans d'autres provinces, précisément ici avec son ami, nous avons hérité quelques bâtiments de l'ancienne gouvernorat. Malheureusement, manque de préparatifs, manque d'encadrement, on a cédé ces bâtiments pour aller se déplacer, pour aller payer le loyer, soit être locataire dans un hôtel. C'est la raison pour laquelle nous demandons si l'État congolais va continuer à contrôler donc des commissaires spéciaux. Parce que les commissaires spéciaux posent des actes où ça devient maintenant des règlements de compte avec les affaires des gouverneurs. Parce que nous avons aussi un ami. Par exemple, je vais juste énumérer la coopérative belge. C'est doté le gouvernement provincial, le gouvernement de la province de. C'est la province orientale de Marvel, l'immeuble Saint-Panet, même après 6 mois, le commissaire est venu, il a cédé l'immeuble et pour aller loger dans l'hôtel et mettre le bureau administratif. C'est la raison pour laquelle nous allons évoquer cette fête-là. Nous devons respecter des principes de continuité. L'État congolais, même si on change des alimentaires, mais le principe reste là. La continuité doit rester là.
Alors, maître Saboni, si on peut bien comprendre, vous dites qu'il y a, bien sûr, la Tchopo, c'est l'ancienne province de Mambré, qui Kisangani, il y a déjà des bâtiments parce qu'il y avait un gouvernorat, il y avait une mairie. Et vous dites que le commissaire spécial qui est arrivé, il a laissé le bâtiment public. Oui, j'ai dit ceci. Si on peut s'entendre.
Kisangani, pourquoi vous avez hérité bâtiments administratifs du gouvernement.
Oui, nous disons la même chose. Nous disons la même chose, Maître Sabouni. Vous dites qu'il y a un bâtiment qui existait déjà pour l'ancienne province, alors que le commissaire spécial, quand il est arrivé, il a abandonné le bâtiment public qui était irréhabilité pour installer son bureau dans un bâtiment privé. Vous parlez d'un hôtel. Vous estimez qu'il faut payer le loyer là-bas alors qu'il y avait déjà un bâtiment qui existait, qui était utilisé par le gouvernorat dans le temps de l'ancienne province orientale. C'est ça, Maître Sabouni? Oui, dommage, il est parti, mais voilà, lui, il regrettait du fait que le commissaire spécial puisse occuper un bâtiment privé ou un hôtel, alors qu'il y a le gouvernorat qui a existé dans l'ancienne province orientale, et la province de Tchopo ne pouvait que continuer à occuper ce bâtiment-là. Merci beaucoup, Maître Sabouni, pour ce témoignage. Michel, vous êtes à Matadi, dans la province du Congo central. Bonjour.
Oui, bonjour, messieurs les journalistes.
Le Congo central n'a pas été, le Bas-Congo n'a pas été démembré, on a changé de nom pour être la province du Congo central. Je crois peut-être que les problèmes d'infrastructure ne se posent pas là-bas comme ça peut se poser dans les nouvelles provinces.
Oui, les problèmes ça ne se posent pas vraiment. Mais le Congo, c'est un tout, c'est un ensemble. Donc, ce qui se passe ailleurs a des répercussions dans d'autres provinces. Vous savez, parce que lorsque ce débat avait commencé, sur ce découpage, la plupart des Congolais ont été contre. Mais nous savons que nous divisons ce pays par défi. Parce que, vous savez, avant que nous puissions y arriver, il y a des commissions qui ont été mises en place pour aller dans ces nouvelles provinces et évaluer l'état des besoins. Moi, je crois que le communiqué a été passé. Mais malheureusement, l'évaluation proprement dite, on n'a pas communiqué. On ne sait pas qu'est-ce que ces gens ont allé trouver là, les comme problèmes. Ils devaient aussi rendre compte. C'est ça, diviser. Rendre compte. Voilà ce que nous avons dit et voilà ce que nous devons faire. Malheureusement, nous sommes divisés par des gens qui sont très petits, qui dirigent ces pays par défi.
Mais Michel, si on peut d'abord clarifier la situation par rapport à la loi, les commissions qui devaient aller évaluer les patrimoines pour l'ensemble des provinces devaient déposer le rapport au niveau des assemblées provinciales, et c'est alors même qu'on devait directement constater la dissolution des assemblées provinciales. Je crois que ces rapports de patrimoine qui devaient être évalués à travers les provinces, le rapport devait être déposé au niveau des assemblées provinciales. Je crois que c'est ça la procédure qui a été instaurée par la loi de mise en programmation.
On ne sait pas maintenant. On ne sait pas si cela a été fait. C'est pourquoi moi je me dis que la Cour constitutionnelle est allée trop vite en besoin. Or, avant même de donner son avis, il devait faire l'étude de toutes les choses avant qu'il puisse donner cet avis. La décision de la Cour est mortelle pour ces provinces-là. Et moi je crois, à ce niveau, je n'ai plus un conseil à donner. Si j'ai un conseil à donner, je le fais à ceux qui viendront après 2016. Nous devons d'abord rentrer dans les 11 provinces. Si nous voulons remédier à cette situation, à cette pente, nous devons d'abord revenir. Parce qu'à ce niveau, vous savez que nous sommes divisés par des gens qui sont trop petits. Ils n'aiment pas écouter. Ils n'entendent pas. Si j'ai un conseil à donner, c'est à ceux qui doivent venir.
Et pour vous, pour le moment, il n'y a pas de conseil à donner. Vous estimez qu'il faut rentrer 11 provinces, mais quand même, la loi a déjà prévu au niveau du gouvernement de mettre en place un programme de financement des infrastructures de base dans ces provinces. Alors, faudrait-il aujourd'hui qu'on arrête ou qu'on mette des moyens pour doter à ces nouvelles provinces d'infrastructures nécessaires pour leur permettre de fonctionner? Félicien, vous êtes à Kinshasa. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui parce que ces provinces existent déjà? On a les Kwango, les Kwilu, les Kasaï, les Kasaï centrales, la Tchopo. On a suivi les bas, les hauts et les partout où les gens disent qu'il n'y a pas d'infrastructure. Mais quand même, d'un côté, le gouvernement s'est engagé à travers la loi en disant que dès que ces provinces sont mises en place, il y a la définition d'un programme entre le gouvernement central et les autorités provinciales. Et en l'occurrence, aujourd'hui, ce sont les commissaires spéciaux pour arriver quand même à permettre à ces nouvelles provinces d'avoir des infrastructures, d'avoir des bureaux et de pouvoir fonctionner comme des provinces normal, Félicien. Félicien, vous êtes avec nous? Oui, on vous écoute, Félicien.
Bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi, bonjour à toute l'équipe qui vous accompagne. Moi, je pense que nous avons un problème très très sérieux dans ce pays que nous n'avons pas encore résolu. Et tant que nous n'allons pas résoudre ce problème, tout ce que nous ferons ne réussira pas. Ce problème, c'est le problème d'hommes, c'est le problème des anti-valeurs. Et je ne sais pas comprendre que l'ONG à Cage soit plus préoccupée par les problèmes de battement qui se courent à Kananga, que ceux qui ont reçu mission de gérer la chose publique pour les comptes de cette province. Et vous trouvez toujours cette situation dans tous les domaines de la vie publique. Donc, les hommes qui vont au pouvoir, ils sont plus riches que l'État. Et vous trouvez aussi que ces gens-là, un gouverneur qui a été nommé Oueli, il n'était pas à construire un petit bâtiment qui peut coûter peut-être 100 000 $, 200 000 $, mais si vous comptez les immeubles que lui a, on ne peut pas comprendre si son salaire est au-dessus du trésor public. Et tout cela, ce sont des problèmes sérieux auxquels nous devions plutôt nous devions trouver des solutions au lieu de chaque fois de mettre, comment je vais dire, des produits ou des médicaments sur une plaie infectée, sans avoir d'abord nettoyé la plaie. Je pense que si nous voulons aller vite au développement, nous avons besoin d'abord de voir quel homme nous sommes dans ce pays, quelle classe politique nous avons dans ce pays. 55 ans ou 56 ans après l'indépendance, nous ne devons pas être en train de faire des projets pour construire des infrastructures publiques et tout ça. Dans chaque coin, il y a quelqu'un qu'on a envoyé et ce quelqu'un-là doit chercher à développer l'entité qu'on lui a donnée. Dans chaque entreprise, il y a quelqu'un qu'on a envoyé là-bas qui doit chercher le développement de cette entreprise et donner les meilleures conditions de vie et de travail à ceux qui sont là-bas. Mais on ne peut pas être là en train de faire tout au niveau du gouvernement central. On fait les projets de ceci, on fait les projets de cela. Aujourd'hui, ce qui nous avons trouvé depuis la colonisation de la Deuxième République, je pense que même les trois quarts a été déjà vendu. On spolie les trésors publics, on spolie les biens de l'État, le patrimoine de l'État, ou bien aussi de tout le monde. Nous sommes quel peuple, nous sommes quelle classe politique. Mais quand on prend, tenez l'exemple de la foire ici à Kinshasa, la foire a été vendue, le motel qui est logement social a été vendu, mais qui est le vendeur, qui est l'acheteur, et à quel prix on a vendu tout ça? Et pour quelles raisons? Et pourquoi l'État ne peut pas avoir un patrimoine et tout doit être vendu? C'est là le problème. Si un jour nous pouvons trouver une formule, comme le cas maintenant avec le dialogue national, si on peut aller parler de ces antivaleurs, si on peut aller parler des pillages des ressources du pays, si on peut aller parler de tous ces mots qui nous rongent, ça serait une bonne chose. Peut-être que nous pouvons redevenir des hommes sérieux, penser intérêt général, penser patriotisme, amour de la patrie, penser l'intérêt du peuple. Je pense que c'est ça qui nous manque.
Merci beaucoup, Félicien. Mais parce que vous avez évoqué que ces questions devaient être abordées, par exemple, dans un forum comme les dialogues, mais bon, ce n'est pas les débats aujourd'hui, les dialogues. Mais quand on regarde les motivations des uns et des autres pour les dialogues, loin d'évoquer tous ces cas, le problème des spoliations des biens, on se rappelle quand on était à la Conférence nationale souveraine, il y a eu la commission bien mal acquis par rapport à la spoliation des immeubles. Ça ne s'est pas arrêté. Pas plus tard qu'il y a une semaine ou deux semaines, parole aux auditeurs avec Gilles Lungembo s'est penché sur cette question, alors qu'on a de nouvelles entités concrètes. D'un côté, les immeubles sont spoliés. Mais dans tout ça, Félicien, vous vous insistez pour dire que le problème, c'est l'homme qu'il faudrait changer. En une seconde.
Oui, je pense que ce que je viens de vous dire là, c'est ce que vous tentez de dire, Pierrot. Nous avons un problème clé. Le problème clé, c'est que nous ne sommes pas des hommes sérieux. On nous a donné un pays riche, mais nous ne voulons pas devenir sérieux. Et voyez un peu nos voisins, les petits pays, comment ils sont en train d'aller de l'avant. Et nous sommes en train de faire le surplace. Si je dis qu'on devrait se mettre autour d'une table pour parler, même si pas au dialogue, même notre moment, parce que le problème sérieux, c'est le problème de comportement. Nous n'avons pas de comportement des hommes responsables qui cherchent l'intérêt général. Et ça veut dire que tout le monde doit être d'accord avec ça.
Merci.
Parce que les élections n'ont rien changé, Nous étions sous la dictature de Mobutu. On n'a rien changé. Nous sommes venus dans les élections. Ça n'a rien changé. On ne doit pas parler toujours élection, élection, élection. Vous voyez, quand les hommes ne changent pas. Et nous avons des pays où il n'y a pas d'élection, mais les gens sont en train de travailler, de développer leur pays et de donner une meilleure condition de vie à leur peuple.
Merci beaucoup, Félicien. Vous estimez qu'aujourd'hui, il faudrait que les gens puissent se regarder en face, qu'on se dise, voilà, il faut changer les types d'hommes. C'est ce qui peut faire qu'on puisse arriver à gérer bien le patrimoine que nous avons. Et Yala Mavango nous a écrit, le gouvernement devrait d'abord penser à construire ne plus que le minimum d'infrastructures dans les nouvelles provinces et après penser à pouvoir créer ces provinces plutôt qu'envoyer les gens sur terrain pour leur dire, allez, vous débrouillez et cherchez où habiter et puis après on viendra vous construire des infrastructures pour pouvoir vous loger. C'est écrit par Yala Mavungu. Nous avons Alain Bolodjoua qui nous a écrit de Kinshasa. Le besoin d'infrastructures en infrastructures se pose effectivement avec acuité. Depuis 1885, le pays a enregistré un retard considérable en termes d'infrastructures en tenant compte de la cartographie des entités administratives. Vu l'évolution exponentielle de la population et surtout de la nécessité d'adaptation aux exigences de la modernité, la réhabilitation ou mieux la construction d'infrastructures modernes devient urgente. Au-delà de l'aspect infrastructural mis en exergue, ce sujet relance à coup sûr les débats sur la gouvernance des provinces et les processus de la décentralisation. Par ailleurs, nous ne devons pas perdre de vue que ce type de travaux relève de la compétence exclusive des provinces. Il est certes vrai que les provinces accusent un manque criant d'infrastructures, mais le gouvernement doit s'abstenir d'être l'exécutant de ces projets au risque de violer les principes de la solidarité adoptés librement. Et là, Alain, le problème, c'est aujourd'hui dans quel état se trouvent la plupart des nouvelles provinces et les capacités qu'elles peuvent avoir aujourd'hui de pouvoir se doter d'infrastructures sans l'intervention du gouvernement au niveau de Kinshasa. Merci beaucoup. Emmanuel, vous êtes à Kindu. Bonjour, Emmanuel.
Bonjour, M. Pierrot. Bonjour à tous les auditeurs de la radio.
On vous écoute, Emmanuel.
Je voulais juste dire qu'au fur et à mesure que le gouvernement de ce pays n'attendra pas le jeu de la population congolaise, rien ne pourra aller de l'avant. Vous devez comprendre que lorsque le gouvernement avait annoncé le système de découpage, les gens avaient crié dans ce pays qu'il n'était pas encore le moment de faire les découpages, car nous étions déjà proches des élections. Et comment le gouvernement doit d'abord dépenser des macrosommes pour faire les découpages et nommer les commissaires spéciaux et faire d'autres choses, et au lieu tout simplement d'organiser les élections avec cet argent. Le problème qui concerne d'abord les Congolais en ce moment, c'est d'abord organiser les élections et respecter les délais constitutionnels. Nous ne pouvons pas être placés pour la deuxième ou la troisième fois parce que nous avons un gouvernement irresponsable qui peut tout simplement s'envoyer à faire des histoires pour arriver à passer la population. Donc, messieurs les journalistes, toutes les constances qui peuvent surgir et se découpage ne peuvent être que le problème du gouvernement. Donc, c'est le manque tout simplement de volonté politique et d'aider ce pays qui est en train de montrer, qui est en train de montrer le gouvernement.
Et alors, pour vous, Emmanuel, vous estimez que la priorité étant les élections, on ne pourrait pas avoir de ressources à mettre aujourd'hui dans la dotation des infrastructures de base pour les nouvelles provinces, parce que c'était déjà confiné, il fallait attendre après les élections et que d'autres autorités puissent financer les travaux d'infrastructures dans les nouvelles provinces et plus privilégier les élections. Merci beaucoup, Emmanuel, vous êtes à Kindu. Germain, vous êtes à Kolwezi, je crois, dans la province de Lualaba. C'est ça, Germain? Vous êtes à Kolwezi, dans la province de Lualaba, c'est ça?
Non, je suis à Luboudi, toujours dans la province de Lualaba.
Ah, vous êtes à Luboudi dans la province de Lualaba. Alors, quelle est la situation aujourd'hui par rapport aux infrastructures dans la nouvelle province?
En tout cas, monsieur le journaliste, c'est déplorable dans notre province de Lualaba. Par exemple, l'objectif de la création de ces nouvelles provinces, c'était pour approcher les administrés et les administrats. Et maintenant, ici, par exemple, au niveau de Lualaba, si vous voyez Luboudi et Kolwezi, Luboudi et les autres villes, en tout cas, c'est déplorable. Ici, par exemple, au niveau de Luboudi, ça sera à la longue une commune. Et dans la commune, là, il n'y a même pas là où on peut loger les bourgmestres. Là, il n'y a même pas là où on peut loger quelqu'un qui vient, une autorité qui vient, par exemple, ici. Quand je rentre à Kolwezi, aujourd'hui, au niveau de Kolwezi, ou bien qu'ils ont commencé par construire aujourd'hui, il n'y a même pas là où on peut loger. Non. Par exemple, le commissaire peut être à la mairie, peut-être. mais je dirais c'était précoce. Ils ont pris ça à la hâte pour seulement déterminer que nous devons avoir de nouvelles provinces. À cela, moi, je demanderais, comme le premier intervenant qui a dit, il faudrait rentrer en 11 provinces. Et moi aussi, c'est ça mon objectif. Celui qui va passer en 2016 doit toujours rentrer en 11 provinces pour qu'on puisse maintenant bien commencer. Regardez, par exemple, tel qu'on a fait commencer par le Grand Kivu et les deux Kasaï là. C'était bien parti. Et aujourd'hui, le Grand Kivu est par rapport à nous autres ici.
Voilà, vous estimez que ça devait se faire de manière progressive, hein, ça a été évoqué plusieurs fois dans cette émission Parole aux auditeurs, les gens estimant que vu l'immensité du pays, le nombre de provinces à créer, il fallait y aller étape par étape, hein, commençant avec une province pilote et installer les nouvelles provinces, installer les infrastructures de base et puis pouvoir continuer comme on avait fait l'expérience avec le Grand Kivu. Et vous estimez que c'est très compliqué parce qu'à l'Oboudi où vous êtes aujourd'hui, même à Kolozi, il y a des problèmes d'infrastructures pour loger les bureaux du commissaire spécial. Et tout comme l'Oboudi qui deviendra une commune, ça va être très difficile aujourd'hui que cette commune réponde vraiment aux normes et qu'elle ait une infrastructure nécessaire. Merci beaucoup, Germain Pacifique. Vous êtes à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Bonjour, Pacifique.
Bonjour, Pierrot. Bonjour, les auditeurs de la fréquence de la paix. Je suis très heureux de prendre également la part à cette tranche d'émission.
Oui.
Et c'est pour vous dire tout simplement que ce n'est pas de cette manière qu'on devait faire. La meilleure façon de faire pour que tout le monde soit content de la création de nouvelles provinces, je crois que ça devait commencer par le respect de la Constitution où on devait donner les 40% retirés à la source qui pouvait néanmoins donner les opportunités à toutes ces nouvelles provinces d'avoir des appuis plutôt qu'aujourd'hui on est en train d'assister à des histoires. Hein, même le Belge, quand il vient ici, quand le Belge est venu, le Belge a commencé d'abord par construire, même dans les fins fonds des villages. Vous trouvez qu'il y a des indices où n'importe qui aujourd'hui peut passer, le Belge est passé par ici. Mm-hmm. Alors, les 40% là devaient en principe donner encore à notre gouvernement les opportunités de dire voilà, avec les 40% que vous avez tiré à la source, vous pouvez faire avec ça, ceci ou cela. Ça n'a pas respecté, mais on a été tout simplement pressé de pouvoir créer ces nouvelles provinces et aujourd'hui ça fait des problèmes où on trouve encore un autre moyen de donner de l'argent, d'enrichir les mêmes dirigeants qui sont affectés dans ces provinces. Par exemple, dans la province de l'ancienne province du Katanga, c'est seulement le commissaire spécial qui est dans le Haut-Katanga qui applique le gouvernorat. Vous voyez, les restes, on leur donne l'argent parce qu'ils seront obligés d'aller louer des locaux pour appliquer, je ne sais pas, leur gouvernement ou quoi et quoi. Et entre-temps, c'est de l'argent encore qu'ils sont en train de dilapider. Mmh. Vous voyez. Et que ce n'est pas de cette manière-là que ça devait se faire. Nous pensons que la meilleure façon de faire, c'est d'abord de faire sur soi cette histoire-là, parce que ça ne marche pas. Donc ça ne marche pas de faire sur soi d'abord ça, que nous retournons dans les 11 provinces, et nous allons voir tout cela, et après, et ça va aller. Si c'est simplement perdu dans tout ça, nous risquons fort de croire que c'est une sanction, c'est une punition qu'on a infligée et à une certaine catégorie de ces politiciens.
Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Pacifique. Vous êtes revenu à cette proposition, même de Michel qui pensait, mais bon, qui a dit, mais cela étant, si ce n'est pas la possibilité de pouvoir permettre à ces provinces d'avoir les procédures nécessaires pour leur fonctionnement, autant mieux ce soir revenir. Mais il a été dit la fois passée dans plusieurs de nos débats que, bon, c'est l'arrêt de la Cour constitutionnelle, on ne pourra pas l'annuler. Parce que vous estimez que l'idéal aurait été de pouvoir doter ces nouvelles provinces d'infrastructures et puis après affecter les gens. Sinon, il n'y a que ceux qui vont hériter de l'infrastructure dans les chefs-lieux des anciennes provinces qui vont pouvoir travailler. Et sinon, c'est encore l'argent, les caisses de l'État qui va pouvoir supporter le coût des locations des immeubles ou même de maisons d'habitation pour les commissaires spéciaux. Et c'est déjà un problème. Merci beaucoup. Pacifique. Nous allons terminer avec vous, Félix. Vous êtes en Bandaka. Bonjour, Félix, et bienvenue dans cet échange.
Oui, bonjour à notre invité.
On vous écoute, Félix.
Oui, je voulais juste me poser cette question, puisque vous parlez des infrastructures. Alors, à ce jour, pour accéder à ces crédits-là des infrastructures, il faut un édit sur la passation des marchés publics qui doit voter souvent au niveau des assemblées provinciales pour permettre la mise en place d'une série de passations des marchés. Alors, avec les commissaires spéciaux aujourd'hui, si vous voulez peut-être destiner ces crédits-là afin que les infrastructures soient mis en place pour les nouvelles provinces qui vont, n'est-ce pas, voter ces édits, qui vont travailler normalement pour mettre en place les cellules de passation des marchés publics. Moi, je pense que avec ce système-là, comme on a déjà aboli les provinces qui étaient votées par les députés provinciaux, on devrait normalement, le gouvernement congolais devrait plutôt signer des accords avec les partenaires étrangers, n'est-ce pas, pour faire en sorte que les nouvelles provinces qui sont dépourvues des infrastructures de base
puissent avoir le moyen. Et d'ailleurs, cette question que vous avez posée, Félix, elle est importante. On l'a débattue dans notre émission de la semaine passée sur le rôle des assemblées provinciales. Vous estimez qu'on a besoin quand même des commissions pour la passation des marchés, alors qu'il n'y a pas d'assemblées provinciales qui se réunissent dans ces nouvelles provinces. Ça sera très difficile pour que tout cela puisse avoir lieu. Merci beaucoup, Félix. Merci à tous ceux qui sont intervenus dans cet échange.
Allô?
Nous disons merci à toute l'équipe qui nous aide à produire cette émission. André Mongou a assuré la mise en onde de Julie Fezabongonda et puis à la gestion du standard Jirmou Gembo. À la réalisation et coordination, Pierrot et la Meiji vous la présenter sous la supervision de Martin Sebouziangwe. On retrouve Parole aux auditeurs sur www.radiocapi.net. Il nous reste à l'instant à vous souhaiter un agréable week-end en compagnie de Radio Capi. Au revoir.